Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Est-ce que vous connaissez le compostage? Et si oui, est-ce que vous savez faire un bon compost? Joséphine Hall et Jade Lécroix font partie de l'association des recyclettes sur le territoire d'Amiens et de sa métropole et nous font le plaisir aujourd'hui de nous éclairer autour de la pratique du compostage. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les recyclettes? Qu'est-ce que c'est?
Bien sûr. Alors c'est une association qui existe depuis l'année 2020. Qui a pour objectif de rendre accessible le compostage à toutes et tous, donc les professionnels et les particuliers. On a différentes activités, certaines qui sont dédiées aux professionnels avec la collecte à vélo des déchets organiques, le compostage sur site, on accompagne des professionnels qui veulent composter dans leur entreprise ou dans leur établissement. Et pour les particuliers, on fait des ateliers, des formations et on accompagne surtout les projets de compostage partagés.
Votre objectif, c'est donc que tout le monde ait l'opportunité de reprendre le pouvoir sur ces biodéchets.
C'est ça, exactement. Être autonome sur la gestion de ces déchets organiques et arrêter de les faire collecter par le camion poubelle. C'est une des bonnes solutions pour réduire nos ordures.
Et le compostage, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est?
Le compostage, c'est la fermentation des déchets organiques. Donc les déchets organiques, c'est tout ce qui est reste de fruits, de légumes, reste d'assiettes. Il va y avoir aussi les déchets de jardin. Voilà, il y a plein de déchets qui sont organiques. Ces déchets-là, du coup, l'idée, c'est de les fragmenter en morceaux relativement petits et de les mélanger avec de la matière brune. Donc, ça va être des feuilles mortes, du bois broyé pour équilibrer la matière. Et ça, on peut le faire dans un bac. On peut le faire avec des lombrics chez soi, dans un lombricomposteur. On peut le faire en tas au fond de son jardin. L'idée, ça va être vraiment d'équilibrer l'humidité, l'aération, donc mélanger régulièrement pour qu'il y ait de l'oxygène dans le tas ou dans le bac. Et de bien rajouter le même volume de matière verte, donc les déchets organiques, restes de table, etc. Et de matière brune, donc des feuilles mortes, du bois broyé. Et souvent dans les lombricomposteurs, on met plutôt du papier et du carton, un petit bout.
C'est 50-50 pour les matières humides et les matières sèches?
Ouais, c'est ça, en volume en fait. On compte pas en poids parce que les déchets organiques sont pleins d'eau, donc ils sont forcément plus lourds. Mais pour un petit seau de 5 litres de déchets organiques, on va mettre 5 litres de matière brune, des feuilles mortes par exemple.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
En fait, les bactéries du composteur du compostage, en fait, c'est les bactéries qu'il y a partout dans les végétaux, etc., ceux qu'on mange. Sauf qu'elles ont besoin d'humidité. Mmh. Donc si c'est trop sec, elles se développent pas en fait.
C'est ça.
Tu vois, donc tu vas en avoir dans les sachets de marc de café, dans les végétaux qui se dégradent quand même un petit peu, ils restent pas tels quels, mais du coup ils se dégradent pas, ils compostent pas quoi, tu vois, ça fait pas de la matière noire.
Ça n'a pas démarré en fait. Hein,
c'est ça.
On va dire. Hein. Donc là, je suis pas surprise, m'en douter.
Une autre technique pour le démarrer, ça peut être de mettre un panier de tondeuse dedans et de mélanger. Comme ça, tu fais un gros apport de matière azotée. Et du coup, tu mélanges bien tout pour pas avoir
un panier. Oui, bien sûr.
Tu vois, ouais, parce que du coup, c'est le volume qui va te manquer.
C'est ça.
Et du coup, ça va t'apporter de la matière humide et azotée d'un seul coup. Je conseille jamais de mettre la tonte de gazon dans le composteur,
non,
mais là,
pour le coup,
tu vois, ça peut être un moyen de le démarrer.
C'est ça.
Assez vite, et du coup, que vous, ça démarre.
Oui. Oui, parce que là, je me doute que c'est.
Tu m'as dit, il est trop sec.
Je m'en doutais qu'on n'avait pas bon.
Souvent, c'est trop humide. En tout cas, ils ne sont pas du tout mauvais.
Et qu'est-ce qu'on évite de mettre dans un composteur?
Eh bien, ça dépend. Techniquement, tout ce qui est organique est compostable. Nous-mêmes, êtres humains, on est compostable. Pas là tout de suite, mais voilà. Mais on va éviter la viande et le poisson parce que ça produit des odeurs. Le pain parce que ça sèche et qu'on peut faire surtout plein de choses avant de le mettre dans son composteur. On peut faire du pudding, on peut faire du pain perdu, on peut faire... Enfin voilà, on peut faire plein de choses. Donc l'idée, c'est pas de le composter et parce qu'en fait, il va sécher le pain et il va avoir tendance à du coup durcir et pas se décomposer. Comme je disais tout à l'heure, on a besoin d'humidité dans le composteur et le pain, s'il est tout sec, il se décompose plus. Et on va faire attention aussi aux déchets verts de jardin en grande quantité. Si on amène beaucoup de tondes de pelouse, il faut avoir le volume de matière brune en parallèle pour pouvoir bien mélanger. Parce que si on met 20 cm d'épaisseur de pelouse dans son bac à compost, ben, au départ ça va être bien, elle va sentir bon l'herbe coupée, au bout de 2 jours elle va chauffer. Et au bout de 4 jours, elle va être toute compactée, toute bouillasse. Et en fait, là, l'oxygène ne passe plus. Et du coup, ça ralentit très très fort le processus de compostage et ça va créer des odeurs désagréables.
Et ça prend à peu près combien de temps, justement, le processus de compostage ?
Le plus long, c'est de le démarrer. Il faut quelques semaines avec un bon équilibre pour que ça démarre. Et après, une fois que c'est lancé, entre 6 et 9 mois pour avoir du compost mûr. Et en fait, on donne cette grosse marge de temporalité parce que, en fait, en hiver, tout est ralenti puisqu'il y a moins de micro-organismes forcément à cause du froid. Donc ça va plus vite l'été que l'hiver.
Et est-ce que tout le monde peut réaliser un composteur ?
Alors, il y a plein de solutions qui existent pour que chacun ait accès au compostage. Donc tout à l'heure, je parlais du lombricompostage, c'est plutôt en appartement, ou alors si on adore avoir plein de petits animaux de compagnie dans une boîte, c'est possible. Donc les lombrics dégradent la matière organique. On va éviter de mettre un lombricomposteur à l'extérieur, parce que, pour la faire courte, en dessous de 15 degrés et au-dessus de 25, ils arrêtent de bosser. Et en dessous de 0 et au-dessus de 30, ils meurent. 30-35 degrés. Donc voilà, c'est des bestioles un peu fragiles, donc on les garde plutôt à l'intérieur. Et en plus, quand il pleut sur la boîte, ça va avoir tendance à les perturber. Donc voilà, le lombricomposteur, c'est un petit peu long à démarrer, mais il y a des astuces sur notre site internet, donc faut pas hésiter à aller voir. Et donc ça, c'est une technique quand on est en appartement. On peut faire du lombricompostage collectif. Il y a des immeubles où certains habitants en fait mettent 3-4 lombricomposteurs sous l'escalier et voilà, c'est partagé par les habitants. On peut faire du compostage partagé aussi quand on habite en immeuble ou quand on n'a pas envie d'avoir un bac dans sa petite cour d'amiénoise ou dans son petit jardin. Ou juste qu'on a envie de pouvoir faire ça avec d'autres gens et de boire des apéros et d'apprendre plein de choses. Donc ça, c'est un bon moyen, le compostage partagé. Ça commence à se développer sérieusement sur Amiens Métropole. Et ensuite, il y a bien sûr le compostage en bac ou en tas dans son jardin quand on a l'espace. Et sinon, on peut fabriquer un bac avec du bois de palette, mais on peut aussi composter en tas si on a un grand jardin, ou même si on n'a pas un grand jardin. Enfin, le bac, il n'apporte rien, en fait, au compost. Ça permet juste de le limiter dans l'espace, et visuellement, on sait que c'est cet endroit.
Voilà, la troisième famille.
Ah, parfait.
Janine et Christian.
Qui ont déjà un compostage dans leur jardin, c'est ça ?
Oui, ils ont en fait un tas, quoi.
Oui, bah ça marche bien, voilà. On peut composter en tas. Pas obligé d'avoir un bac, les Estelles.
Non.
Bonjour.
Joséphine.
Bonjour.
Jade.
Bonjour.
Boris.
Anna.
Janine et Christian.
Voilà.
Bonjour Janine.
Du fond.
Bonjour Christian.
Et donc vous compostez en tas dans votre jardin, c'est
voilà.
Ça ?
Voilà.
Parfait. Depuis longtemps, je suppose.
Pardon ?
Vous compostez depuis quelques années déjà dans votre
jardin ? Ah oui, on composte.
On a toujours fait ça. Ça fait 15 ans qu'on est ici.
Oui.
Ça fait 15 ans qu'on est ici et on a commencé presque
tout de suite. De toute façon, le gazon, il fallait bien le mettre quelque part. donc...
Vous arrivez à le mélanger avec les feuilles mortes, tout ça à peu près, ça
oui,
fait pas trop
oui,
des...
oh, bah, ça se fait non, naturellement.
Avec tous
oui.
les déchets de la maison, toutes les épluchures. Tous
ça,
les
épluchures, il n'y a pas très très longtemps quand
oui,
même.
Il y a quelques années, oui.
Il y a moins longtemps. Oui,
moins. Mais alors, on a un compost extraordinaire. Bon, on a un jardinier, puisque nous, on ne peut plus jardiner. On a trop mal. On a un jardinier extraordinaire qui nous a remis du compost.
Là, on a fait à peu près 1,5 m de compost.
Depuis l'année dernière, enfin cette année.
Sur 2 ans.
Deux
oui.
ans
ouais, c'est
oui.
pas mal. Oui, donc.
Et il en reste
et
encore.
Tous nos parterres ont été remplis de compost et on a des fleurs.
Bah oui, c'est
magnifique, magnifique. Oui, on a des fleurs. Hein ah moi, j'en ai jamais assez. Alors hein, tu le sais bien, il m'en
oui,
faut
oui,
toujours.
Sylvie.
J'en ai plein. Alors là c'est triste hein, parce que on a 50 rosiers à peu près. Hein.
Ah oui.
Oui. Ah oui, alors là, c'est triste parce que regardez dans quel état ils sont.
Avec la pluie,
oui, mais comme ça refleurit
en
août.
Tout à l'heure, tu parlais des composteurs partagés. Est-ce que des fois, il n'y a pas des soucis de cohésion avec les composteurs partagés, des mauvais déchets, de la viande, du poisson ?
Quand il y a des erreurs, soit c'est parce que les personnes n'ont pas eu les infos correctement, ou en tout cas, elles n'ont pas forcément le rappel de ce qu'on peut composter chez elles. Donc quand on installe un composteur partagé, on distribue en fait les consignes de tri au maximum aux habitants. Et du coup, il y a des référents et référentes de sites qui sont des bénévoles hein, de l'association et qui sont formés du coup un petit peu plus au compostage et qui vont organiser des petites soirées, des permanences, des apéros compost pour sensibiliser les habitants qui utilisent le composteur partagé à faire le tri correctement à la maison. Donc voilà, séparer, enlever la viande et le poisson, enlever le pain, ce genre de choses. Et surtout, ben voilà, souvent dans les composteurs partagés, au début on retrouve pas mal de déchets verts parce que ben oui, ça se composte. Mais le problème c'est que si tout le monde ramène sa tonte de pelouse, ben en fait en deux jours le bac est plein et on s'en sort plus. Donc l'idée c'est aussi pour ça qu'il y a des déchets qui, bien qu'ils soient compostables et qu'on puisse le faire à la maison, on le fait pas forcément en composteur partagé. Après, très honnêtement, en fait, composter ces déchets, c'est pas très compliqué. Le faire en collectif, ça peut apporter des petites tensions, mais c'est aussi surtout facteur de lien social. Les gens se parlent, des gens qui n'ont pas le même âge, qui ne travaillent pas dans les mêmes secteurs, etc. Donc c'est surtout ça qui est intéressant dans le compostage partagé. Il y a le côté réduction des ordures dans la poubelle, bien sûr, mais le côté lien social qui est aussi très chouette. Et bien qu'il y ait des petits désaccords, des petits désagréments parfois, souvent c'est un manque de communication.
Vous avez mis en place plusieurs composteurs partagés, c'est ça, Amiens ?
Tout à fait. Il y en a un qui vient de s'installer à Henriville. Il y aura notre prochain apéro compost qui aura lieu là-bas le 13 juillet en soirée. Il y en a un dans un... Donc ça, c'est un composteur partagé de résidence qui est au pied de la résidence Beauvillet, donc à la frontière entre Rivry et Amiens. Il y en a un également dans le quartier de la ZAC Saint-Honoré, en fait à la ZAC Intercampus, juste à côté du poulailler collectif Omelette. Il y a un composteur partagé à cet endroit-là. Il y a aussi un composteur partagé qui est pas mal utilisé à côté de la briqueterie. Donc celui-là, il est plutôt bien utilisé, donc on essaie de plus trop envoyer du monde vers celui-là. L'idée, ce serait d'en installer un autre dans le quartier, pourquoi pas à proximité de la maison du colonel. Donc ça, voilà, c'est des choses qui vont arriver. Et après, on a pas mal de demandes sur pas mal de quartiers. Et donc là, on travaille avec Amiens Métropole pour lancer des nouveaux projets à partir de cet automne. Donc nous, on est en train de recruter quelqu'un pour cette mission-là. Parce que, ben, avec nos deux petites paires de bras, avec Olivia, et bien qu'il y ait plein de bonne volonté qui viennent nous aider, ça suffira pas pour développer correctement le compostage partagé à Amiens.
Et vous avez un potager aussi ou...
Un petit. Pas grand chose dans le potager.
C'est surtout les fleurs.
J'ai mis des tomates, ma chère.
Oh, très bien.
J'ai mis du persil.
Oui.
Et pas encore.
De la salade.
Il y a du thym, il y a...
Ah, du thym, oui, tout ça.
Enfin, la salade.
Ouais. Et parfois, les limaces la mangent avant vous.
Ah, mais non, on a des hérissons.
Voilà.
Ça fait bien.
Donc, on n'a pas de limaces. Ouais. Bah, d'ailleurs, vous devez vous en profiter aussi. Vous n'avez pas de limaces.
Hein, non, on n'a pas de limaces. Non.
Tu vois passer les hérissons.
Les hérissons, oui. Le soir, oui.
Le soir, effectivement.
Eh bien, le soir, ils viennent manger. Je leur donne à manger et à boire.
Oui,
je leur donne à manger et à boire.
Sinon, on connaît beaucoup d'idées reçues sur le compostage. Est-ce que tu pourrais nous les décortiquer?
Alors, par laquelle tu veux commencer?
Ben, je sais pas, il y en a plusieurs. On va commencer par les odeurs.
Les odeurs. Alors, les odeurs, si on ne composte pas la matière animale, donc viande, poisson principalement, s'il y a une croûte de fromage qui passe dans le composteur, ça ne va pas générer des odeurs incroyables. Souvent, les odeurs, elles sont liées à un manque d'aération du compost. Donc, en fait, il va falloir mélanger. Regardez si la matière n'est pas trop humide, donc voilà, et peut-être qu'il faudra rajouter un petit peu de matière brune, donc des feuilles mortes, du bois broyé, du carton dans un lombricomposteur en petits morceaux, pour absorber l'excédent d'humidité. Après, l'idée c'est pas que ce soit tout sec non plus, donc pour savoir si c'est bien parce qu'il est trop humide qu'il sent mauvais, il suffit de le remuer un peu et de voir si en quelques jours ça s'améliore. Alors de le remuer un peu, mais en profondeur, si on remue que la surface, ça suffit pas.
Il faut souvent le remuer d'ailleurs, le compostage.
À chaque fois qu'on amène des déchets organiques, on va mélanger les déchets qu'on vient de ramener avec la couche du dessous. Donc on peut avoir pour ça une petite griffe ou une toute petite fourche avec quelques dents, un petit râteau à côté de son composteur. Et quand on veut vraiment aérer la matière et bien le mélanger, moi je conseille d'avoir une fourche bêche ou une fourche à fumier, donc c'est avec des pics un peu plus longues. Ça permet d'aller plus en profondeur dans le tas. Et ça, je conseille de le faire... Alors les plus forcenés le font une fois par semaine, mais une fois par mois, une fois tous les deux mois, c'est déjà bien. Et si jamais on n'a pas trop envie de mélanger, si on mélange bien la matière verte avec la matière brune, donc déchets organiques et déchets de feuilles mortes et bois broyé. Normalement, ça va, il n'y a pas trop besoin de le remuer en profondeur tant qu'il n'y a pas d'odeur. Après, il y a des petits outils qui existent, qui s'appellent le brass compost. C'est une sorte de tire-bouchon géant qu'on enterre dans le compost en le tournant. Et on tire, et du coup, ça vient remonter la matière qui est un peu plus en profondeur. Donc pour des gens qui ont peut-être des problèmes de dos, ou plus de difficultés à utiliser une fourche pour remuer le compost, ça peut être un truc pas mal. Il y a aussi des espèces de pics, comme des flèches en fait géantes, sauf que la pointe se rétracte quand on l'enfonce dans le bac, et les petits picots s'écartent quand on la tire. Donc voilà, il y a aussi ce genre d'outils qui existent.
En quoi, selon vous, le compostage est important, voire nécessaire?
Ben, pour réduire les déchets. Les déchets organiques, c'est un tiers de nos poubelles. Donc ça veut dire que si on composte nos déchets organiques, on sort moins la poubelle, et surtout, il n'y a plus jamais d'odeur, en fait, parce que c'est cette matière-là qui va fermenter dans le sac poubelle, qui va sentir mauvais, etc. Donc c'est déjà ça le bon point. L'autre élément, c'est que en fait, on ne se rend pas forcément compte de cet élément-là, mais quand on dépose ses déchets dans sa poubelle, aujourd'hui sur Amiens Métropole, ils sont collectés en camion. C'est à peu près 150 camions par jour qui vont jusqu'au méthaniseur d'Amiens Métropole, qui est un moyen de gérer les déchets. La difficulté, c'est que bah, en fait, si on ne trie pas ses déchets organiques, ou en tout cas qu'on trie peu ses déchets, on ne prend pas trop conscience de la quantité de déchets qu'on produit, puisqu'en fait, ben, voilà, ils disparaissent quelque part un peu au coin de la rue, quoi. On les met dans le sac opaque, dans le bac opaque, et le camion poubelle passe, et hop, ils ont disparu. Et en fait, ils ne disparaissent pas, et ils ont un impact, à la fois rien que le fait de les transporter jusqu'au méthaniseur, ça a un impact. Et ensuite, bah, tout n'est pas méthanisable. Le plastique des sacs poubelles, il n'est pas méthanisable. Les erreurs de tri qu'on peut faire, parce qu'on ne sait pas trop, parce que ce n'est pas toujours très clair, etc. Pareil, tout ce qui est plastique, tissu, tout ça, ça ne va pas se méthaniser là-haut. Donc en fait, le fait de composter ces déchets organiques, donc de trier chez soi la part organique des déchets, c'est un moyen de se rendre compte de ce qui reste comme déchets. Donc souvent, on sépare un peu ce qu'on appelle le tout venant et le recyclable. Et en fait, ben, de rajouter cette petite poubelle-là, on se rend compte de ce qui reste dans notre poubelle. Souvent, c'est des emballages, des objets cassés, ce genre de choses. Et ça permet de se dire, bah tiens, ça, en fait, finalement, où est-ce que ça va? Et peut-être que je peux l'éviter. Enfin, voilà, ça peut permettre de créer, en tout cas, un peu de réflexion. Et souvent, ce que nous disent les gens, justement, on parle des odeurs dans le bac, mais c'est qu'ils n'ont plus jamais d'odeur dans leur poubelle. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Et l'autre point positif, c'est que quand on composte, parce qu'il y a d'autres moyens de réduire ces déchets organiques, il y a des villes, par exemple, qui organisent des collectes séparées. Donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent exister, mais on est toujours sur un système de camions. Mais comme je disais tout à l'heure, le fait de composter en collectif, c'est qu'on va créer du lien avec ses voisins, donc c'est aussi sympa quand on a des voisins sympas, bien sûr.
Univox.
Et ensuite, l'étape de commercialisation alors du compost. À supposer que Sylvie arrive à faire du bon compost. Il faudra qu'on puisse rentabiliser notre investissement.
Pour vendre du compost, il faut le faire normer, donc il faut faire des tests, il faut prendre la température tous les jours, etc. Donc il y a un suivi au jour le jour, et surtout il faut payer des tests en laboratoire pour le faire normer. Il y a une norme pour qu'il soit utilisable et vendable, en fait. En fait, tant qu'il n'est pas normé, on parle de matière compostée, plus que de compost. Ça se vend pas très cher, c'est au méthaniseur, là, à Amiens Nord, ils font du compost, donc il n'est pas très qualitatif, il y a beaucoup de plastique dedans, ils le vendent 1€ le mètre cube. Et en fait, tout est mélangé, ça va dans un méthaniseur industriel, donc c'est un énorme silo, il y a 3 ou 4 silos. Et donc c'est des trucs en béton, il y a une membrane qui vient pas jusqu'à la moitié en béton aussi, et en fait les déchets sont injectés d'un côté et ils ressortent de l'autre au bout de 3 semaines à peu près. Donc ils passent 3 semaines dans le silo où ils sont mélangés avec du gaz, etc. Et en fait, bien qu'il y ait un tri avant, les sacs sont éclatés, etc. Ils enlèvent tout ce qui est du verre, des piles, des trucs lourds en fait qui n'ont rien à faire dans le méthaniseur. Mais ce qui est du plastique et ce qui est du coup assez léger en fait est amalgamé avec le reste des déchets organiques. Donc en fait, le plastique des sacs poubelles va dans le méthaniseur. D'accord. Et en sortie de méthaniseur, c'est compressé pour faire sortir la partie qui reste de matière organique. En fait, ça c'est composté, mais il y a quand même un peu de plastique parce que ça se désagrège en fait.
Bah
Et ça a beau ne pas monter très haut en température dans un méthaniseur, ça va à 37, entre 37 et 40 degrés à peu près. En fait, ça fait quand même des petits bouts de plastique qui se retrouvent dans les champs, du coup, alentour.
Vous, chez les recyclettes, pardon, du coup, vous utilisez des vélos cargo. Pourquoi ce moyen de transport est important pour vous ?
Alors, on se déplace à vélo pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'en ville, on est presque aussi efficace qu'une voiture quand on se déplace à vélo. La deuxième, c'est que c'est un moyen de déplacement qui a un très faible impact environnemental. Il n'est pas nul puisqu'on utilise des vélos à assistance électrique. Enfin, c'est les remorques qui sont à assistance électrique. Donc les batteries, forcément, ne sont pas du tout avec un bas impact puisqu'elles viennent de loin, elles sont fabriquées voilà, avec des métaux rares, etc. Donc ça, on a conscience de ça. Mais l'intérêt, c'est que on libère pas de particules fines dans l'atmosphère en ville. On respire celles des autres, par contre. Et surtout, l'objectif de ça aussi, c'était de montrer qu'on peut faire beaucoup de choses à vélo. Souvent, les gens hallucinent un peu quand on débarque avec nos remorques pour livrer du broyat sur un composteur partagé, pour un atelier construction de composteur en bois de palette avec tout le matériel dans la remorque. Ils disent, mais en fait, c'est plus grand qu'un coffre de voiture et on en met plus. Bah oui, on en met plus. C'est sûr qu'on n'irait pas forcément jusqu'à Lille en vélo électrique, mais c'est pas l'objectif. Donc ça, c'était vraiment les deux points importants. Et puis le troisième, c'est aussi, moi j'ai toujours fait du vélo en fait. Enfin, depuis quelques années, je me déplace principalement à vélo. Et je me voyais pas acheter des camions et des camionnettes pour faire cette activité-là. Et je pense que ça aurait eu beaucoup moins de succès aussi en termes de message et de cohérence si on avait choisi des camions.
Ça rentre dans votre démarche.
C'est ça.
Et quels sont vos objectifs par la suite pour l'association ?
Voilà, je commence par lesquels. Alors déjà, là, on a remporté un marché public avec Amiens Métropole, donc ils nous font confiance pour l'accompagnement des sites de compostage partagé. Donc on va pouvoir accompagner 10 sites par an à partir de l'automne, donc ça c'est déjà beaucoup. On recrute du coup pour ce poste-là. On va aussi faire de la formation et des ateliers avec l'association En Savoir Plus, pareil, toujours sur le compostage et en partenariat avec Amiens Métropole. Donc ça, pareil, c'est pour les 4 années qui arrivent. Dans les projets, là, on est en train de chercher activement un lieu pour installer notre véritable zone de compostage. Jusqu'ici, on était un peu en expérimentation au jardin du bout de la rue. Et en fait, là, on va manquer d'espace. On est un peu victime de notre succès, on peut dire ça comme ça. On ne peut plus trop aller démarcher des nouveaux restaurateurs parce qu'on n'a pas suffisamment de place pour composter. Donc, l'un des projets, c'est effectivement de trouver un site. Donc là, on est sur plusieurs pistes. Je ne vous en dis pas plus, je reviendrai pour expliquer. Mais l'objectif de cette zone de compostage, c'est qu'elle soit un peu comme nos déplacements, le moins impactante possible. Et donc, l'objectif, ce serait de récupérer l'eau de pluie pour laver nos bacs de compostage, et en fait le compost quand il est en activité, en fait chauffe naturellement jusqu'à 80 degrés. Donc on voudrait chauffer l'eau de pluie, en fait avoir un système qui passe dans les bacs pour chauffer l'eau de pluie pour pouvoir laver nos bacs à l'eau chaude. Et tout ça sans utiliser beaucoup d'énergie. Donc ça reste un projet pour le moment. On a fait quelques expériences, on sait que ça peut fonctionner. Après il faut voir sur une échelle un peu plus importante. Et après, les autres projets, on voudrait vendre le compost issu de la collecte aussi d'ici quelques mois. Donc on a aussi quelqu'un qui rejoint l'équipe en alternance à la rentrée pour travailler sur ce projet-là. Voilà, et ensuite, y a plein d'opportunités qui arrivent petit à petit, donc on essaye de saisir celles qui nous intéressent. Et tout à l'heure, j'ai pas donné toutes les infos aussi sur les autres idées reçues. Il y en a une autre qui est très prégnante, c'est sur les agrumes. Souvent, on nous dit qu'on ne peut pas composter les peaux d'orange, les peaux de citron, les peaux de pamplemousse. Alors, pour diverses raisons, on dit que les agrumes seraient trop acides, qu'il y aurait des hydrocarbures dans la peau, enfin des huiles essentielles, en fait. Ce qui est vrai, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Par contre, ça n'a pas de gros impact sur le compostage. À moins que les gens ne mangent que des pamplemousses ou que des oranges et qu'effectivement, il n'y ait que ça dans le bac à compost. Ça se dégradera mal. En fait, l'idée, ça va être de les couper au moins en 2 ou en 4 pour que ce soit des morceaux relativement petits. Et pour l'histoire de l'acidité, on dit que c'est très acide. En fait, les tomates et les prunes, c'est pas moins acide et pourtant, il n'y a pas de débat autour des tomates et des prunes. Donc voilà, on peut composter les agrumes en les coupant en morceaux, ils se dégraderont. par rapport à l'aspect positif du compost, c'est se rendre compte du gâchis alimentaire aussi, parce que forcément, gérer ses déchets soi-même tous les jours, ou au moins 2-3 fois par semaine, tu te rends compte de ce que tu jettes, et tu vas, comme tu as dit, le pain, tu vas faire quelque chose, et pareil, tes fruits, tes légumes qui tournent vite, tu vas essayer de t'en occuper avant de les jeter. Donc je pense qu'il y a aussi un grand impact au niveau du gâchis alimentaire qui est cool.
Donner un chiffre, en fait, effectivement, il y a 30% des déchets, comme je disais, qui sont compostables. Et dans ces 30%, et c'est 8% en moyenne qui sont du gaspillage alimentaire. Donc en fait, c'est énorme. Enfin, ça, c'est à la maison. La restauration collective et dans les restaurants, c'est davantage. Mais en tout cas, à la maison, ouais, on peut déjà réduire ces 8%. Et en plus, c'est de l'argent perdu quelque part parce qu'on achète des choses qu'on jette. Donc... il y a parfois ouais, un petit peu de temps à prendre là-dessus. Le changement d'habitude prend un peu de temps, mais effectivement, composter, on se rend aussi compte du gaspillage alimentaire. Oui. C'est vrai.
Ça nous fait plus ouvrir les yeux que de mettre un truc à la poubelle et de fermer le sac. Et...
ouais, je pense. Je pense ah, oui. qu'on se rend compte.
On a tellement pris l'habitude. Mais des petits trucs, hein, mais des petits bouts de salade dans l'assiette ou quelques morceaux que tu finis pas et qu'au final tu vas acheter à la poubelle et ça... petit à petit, quand t'es dans une famille qui a 6 personnes, que tout le monde jette un tout petit peu de son assiette tous les jours, plusieurs fois par jour, bah ça remplit le sac, quoi.
Ouais, il y a les restes d'assiettes, et puis il y a aussi les fruits et les légumes qu'on va pas traiter, en fait, enfin, qui vont pourrir dans le bac du frigo. Enfin, le frigo, c'est quand même mal fichu, c'est un placard opaque, il faut l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans, et si on a plein de choses un peu emballées, si on est une famille nombreuse, tout de suite, c'est un frigo qui peut être fort rempli. Donc on ne voit pas forcément ce qu'il y a dans notre frigo. Et c'est vrai que les fruits et les légumes, souvent, ça prend un peu de volume et ça s'abîme assez vite. Donc parfois, bah, réapprendre à cuisiner, en acheter un peu moins. Mais bon, il faut avoir aussi le temps d'aller faire des courses parfois plusieurs fois dans la semaine. C'est pas... tout le monde n'a pas cette chance-là, entre guillemets. Donc voilà, c'est aussi prendre conscience. Et notre objectif, c'est pas de stigmatiser... ceux qui n'auraient pas le temps ou qui n'ont pas envie, en fait, je pense qu'il faut que chacun puisse le faire s'il en a l'occasion et s'il a envie de se former, etc. Mais pas non plus stigmatiser celles et ceux qui ne le font pas, quoi.
Bah, merci beaucoup à vous deux.
Avec plaisir.
Merci à Joséphine Hall et Jade Lécroix de l'association des Recyclettes, une association qui participe à la création, au fonctionnement et à la récolte du compost sur le territoire amiénois grâce à leur vélo-remorque.